Kiosque Magazine.
Bonjour à tous, nous sommes le 9 juillet 2015. Bienvenue à Kiosque Magazine sous le thème des loisirs et de la culture. Je suis en compagnie de merveilleux animateurs ce matin. Je m'appelle Charles Roy. Je dis bonjour à Jean-Philippe Vachon.
Bonjour Charles, et j'aimerais te corriger, on est le 10 juillet aujourd'hui.
Ah ben oui, ah, j'ai marqué encore une fois la mauvaise date sur ma feuille de route. Bon ben tant pis. Et on a des nouvelles de France. Oui, Jennifer est à mes côtés.
Bonjour. Et oui, salut Charles, salut à tous. Effectivement, alors, je suis rentrée de France. Ça y est, me revoilà.
Il a fait chaud en France, c'est ça?
Il a fait très chaud, très chaud, grosse canicule.
Bon, de quoi tu vas nous parler, Jennifer?
Moi, je vais vous emmener tout d'abord au théâtre, où il y aura le Combat des chefs qui est à l'affiche jusqu'au 29 août au théâtre du Vieux-Terrebonne, exactement. Et je vous inviterai également à aller voir une autre pièce de théâtre qui va autant vous faire rire de plaisir que vous mettre parfois un petit peu mal à l'aise. Il s'agit de la pièce Ma première fois. Mm-hmm. Je vous laisse deviner de quoi ça va parler. En cinéma, on parlera également du documentaire Amy qui sort aujourd'hui en salle et raconte la vie trépidante de la très controversée Amy Winehouse. Et enfin, je vous propose 10 shows à voir au festival ZooFest.
Merci Jennifer. Toi, ton côté, de quoi tu veux nous parler?
On va parler de festival de mon côté aussi. On va se promener du côté des Cantons de l'Est avec la 5e édition du festival JAM. On en reparlera dans les prochaines minutes. On va aussi aller à Québec parce que c'est la fin de semaine du festival d'été de Québec. En fait, ça commençait hier soir. Ça se déroule pendant 10 jours. Alors, on en reparlera un petit peu également. Je parlerai aussi ce matin d'un sujet assez particulier. En fait, un autre festival. Question de faire changement un peu.
Oui, c'est ça.
Alors, on va parler du délire chazamesque. Alors, on s'en parle tout à l'heure et on parlera de cinéma aussi avec le gay Hollywood, une petite histoire du cinéma homosexuel à travers le temps.
Merci. Mais il sera question aussi de l'OSM qui a dévoilé très longtemps ses concerts en plein air. Fait que je vais vous en parler de cette programmation-là. Et aussi le spectacle Dragao qui met en scène les romans de Brian Perrault, Amos d'Aragon. Également aussi, on vous propose une sortie. Ben oui, allez voir la Chapelle Sixtine à Montréal.
Alors, le festival JAM en est déjà à sa 5e édition cette année. Et pour ceux qui ne connaissaient pas trop le festival, eh bien, vous allez probablement le connaître rapidement. C'est dans la ville de Dunham, donc c'est dans le coin des Cantons de l'Est, près de Bromont, du lac Brome, des villes comme ça. Alors, c'est un article d'Isabelle Autier dans La Voix de l'Est. Ça a été publié le 8 juillet dernier. Et de 5 pour le festival JAM, voilà. Les amateurs connaissent déjà l'événement. C'est Festival Jardin des Arts et de la Musique du Monde. JAM, alors. Voilà. Revient donc une 5e année sur le site de l'auberge La Belle Verte à Dunham les 24, 25 et 26 juillet prochains. Son nom le dit, le JAM combine les rythmes du monde et les arts visuels durant toute une fin de semaine et dans une ambiance conviviale. L'événement attire d'ailleurs de nombreuses familles à chaque année, mais pas seulement. Le festival JAM vise aussi tous ceux qui ont envie de s'ouvrir sur le monde et de s'amuser. Alors pour leur plaire, l'organisateur de l'événement cette année, Eric Lafontaine, a imaginé une programmation qui serait plus élaborée que jamais. On a 3 scènes au lieu de 2, plus de groupes de musique et plus d'animation et aussi beaucoup plus de kiosques alimentaires. Alors, on a aussi un spectacle de fermeture pour la toute première fois. Alors, c'est quand même des belles nouveautés cette année. Dès vendredi soir, donc dès le 24 juillet prochain, les festivaliers pourront notamment assister au spectacle des Frères à cheval. Et juste avant, ils auront pu entendre le reggae métissé de Brady Cardi. Le lendemain soir, M. Lafontaine recommande également le grand Dundunba, alors mettant en vedette des danseurs et des musiciens originaires de la Guinée. Alors, ça peut plaire à plusieurs personnes également. Cette année, le thème est le feu. Il y aura donc un atelier aussi de manipulation, des démonstrations et une grande parade de feu. Donc ça, c'est quelque chose à voir aussi. Et les détails de la programmation et les passeports pour le week-end sont disponibles sur le site www.festivaljamjamm.com. Et c'est aussi possible d'y réserver un hébergement en chambre, en dortoir ou bien en formule camping également. Et ce qui est intéressant, c'est que la Belle Verte, en fait, l'auberge où se situera le festival en tant que tel, s'élève sur le terrain du hameau L'Oasis du chemin Scottsmore. Et les recettes du Festival JAM sont versées à cette organisme sans but lucratif et entreprise d'insertion d'économie sociale qui œuvre dans le domaine horticole. Alors, c'est quand même pour une bonne cause. Et comme M. Lafontaine le mentionne également, eh bien, ça a été difficile. Et cette année, semble-t-il que les choses vont dans la bonne direction parce que l'an passé, il y avait seulement 800 entrées payantes. Donc, il n'y avait pas énormément de profit. Cette année, ça sonne déjà mieux. On a déjà 1100 personnes de confirmées qui vont être là, que les billets ont déjà été vendus. Alors, c'est quand même intéressant. Et ce dernier rappelle encore une fois que le hameau a besoin de soutien après être passé dans le tordeur du gouvernement libéral il y a 2 ans. Alors, depuis, il fonctionne, mais avec des projets plus modestes. Alors, c'est une belle façon de relancer l'économie de cette région-là. Alors, je vous rappelle que c'est le festival JAM. C'est le 24, 25 et 26 juillet prochain à Dunham.
belles choses que j'ai vues avant.
Alors, pour nous faire sourire un peu, c'est la musique des Trois Accords ce matin, tirée de leur dernier album « J'aime ta grand-mère », c'était « Personne préférée ». Et ça me fait tellement toujours sourire, cette chanson-là. C'est hilarant.
Oui, c'est une belle découverte. Et puis, pour ceux qui veulent entendre cette version-là, de cet album-là sur scène avec un orchestre symphonique, mm-hmm. Ce sera possible le 15 juillet prochain à Montréal. Je vais vous en parler. Dans Le Devoir, il y a un article qui s'intitule « Concert d'été, l'OSM trouve son rythme ». C'est les concerts gratuits dans les parcs de Montréal et aussi partout au Québec qui font une petite tournée. C'est Christopher House qui nous en parle dans le journal Le Devoir le 13 mai. Donc, concert dans les parcs, deux prestations dans la Nodière, puis une virée classique introduite le 5 août par un concert au stade olympique. La saison estivale de l'OSM trouve sa vitesse de croisière. L'été de l'OSM roule en douceur depuis l'instauration de la virée classique. Le menu 2015 débutera par une reprise des Trois Accords symphoniques, je viens d'en parler, à Juste pour rire le 15 juillet et enchaînera sur trois concerts dans les parcs dirigés par Dina Gilbert à Montréal-Nord, de Blainville et de Pincourt. Les deux présences de Alan Audière, c'est les 31 juillet et 1er août, seront consacrées à Zibelus et Grieg le vendredi et à Misa Solmis de Beethoven le lendemain. Puis, l'immersion musicale de la virée symphonique débutera par un concert au Stade olympique le 5 août, une version abrégée de Carmen de Bizet avec Michel Loisier, Joseph Kaiser, Marianne Fizet et Grégory Dalle. Il y aura aussi des jeunes talents en vedette. Les 7 et 8 août, la virée accueillera le pianiste Benjamin Grovandor, Nikolai Lugansky et Jason Gillam. Oliver Jones donnera avec le bassiste Éric Lagacé et Jim Doxas à la batterie un récital jazz inspiré des thèmes de Bach, Chopin et Scarlatti. Kent Nagano insiste beaucoup sur la rencontre des générations, juxtaposition des jeunes talents et des vedettes confirmées, et la musique collégiale associant musiciens de l'OSM et vedettes. Il souligne une fois de plus l'intérêt de la virée pour le jeune public. « Nous essayons d'attirer les familles, dit-il. Il n'y a aucun compromis sur le niveau musical, mais le contexte change avec des concerts courts et enchaînés. » À ce titre, la virée 2015 associera à l'OSM comme second orchestre l'Orchestre des jeunes de Montréal de Louis Lavigueur que Kent Nagano trouve formidable. Est-ce un plan B si le projet de l'Académie de l'OSM ne voyait pas le jour en 2016? Il répond que l'idée d'avoir la prochaine génération comme partie prenante d'un festival classique d'été, c'est un thème universel et nous avons au Québec de belles organisations et des groupes talentueux. Pour Kent Nagano, ce qui importe, c'est de faire jouer en orchestre la prochaine génération. On espère que cela se concrétisera un jour avec une académie, mais jusque-là, il existe de formidables formations de jeunes et nous aimons les associer dans un festival. Donc, vous pourrez peut-être entendre un son de violon au loin et vous saurez qu'ils seront près de chez vous dans un parc.
Tout de suite en théâtre où le coup d'envoi de la pièce Le Combat des Chefs a été donné au théâtre du Vieux-Terrebonne un peu plus tôt cette semaine, alors que l'on amorçait la saison estivale. Benoît Brière et Martin Drainville, entourés d'une magnifique distribution, ont réussi à amuser leur public en livrant une performance délirante dans la plus pure tradition des grandes comédies de boulevard. Avec cette pièce canadienne, anglaise, c'est Louise Bourbonnais qui nous en parle dans le Journal de Montréal du samedi 4 juillet. Les personnages sont extravagants tandis que les intrigues et les quiproquos se multiplient au rythme du spectacle, donnant le ton à ce que l'on qualifie de comédie burlesque. Les auteurs Marcia Cash et Douglas Hughes situent leurs personnages dans un humour léger, basé sur des intrigues rocambolesques aussi folles les unes que les autres et malheureusement beaucoup trop improbables. Néanmoins, la mise en scène de René Richard Cyr mérite d'être applaudie. C'est principalement le rythme de la comédie et le jeu des 8 acteurs, n'offrant aucun répit, qui permet de passer des moments amusants. Campé dans la région de Niagara Falls au début des années 30, en pleine période de prohibition, Irving Bulbalo, magnifiquement bien interprété par Benoît Brière et sa fille Honnay, jouée par Émilie Bibeau, font preuve d'audace en ouvrant un restaurant tandis que les commerces tout autour ferment. En ce jour d'inauguration, le restaurateur ne sera pas au bout de ses peines en commençant par son réputé chef français François Laplouffe qui lui fera un faux bond. Il devra plutôt composer avec Frank Bunkert, joué par Luc Guérin, un chômeur en quête d'emploi. Et c'est un mafioso de Chicago qui viendra mettre du piquant dans toute cette histoire, l'acteur Martin Drainville incarnant le gangster Fegetti qui fait, dans la contrebande d'alcool, s'est carrément surpassé dans son rôle. Bref, rien de monotone, coup de feu, cadavre, porte qui claque et grande confusion sautent au rendez-vous. Ça s'appelle Le Combat des Chefs et c'est à l'affiche jusqu'au 29 août au Théâtre du Vieux-Terrebonne.
Et on est de retour à Québec, Jean-Philippe.
Oui, de retour à Québec et surtout de retour en festival. Ce matin, je me suis dit, on va regarder
ça. C'est l'été,
un peu.
Hein, il faut profiter, l'hiver n'est pas tant de festival que ça.
Non, il y en a tellement partout au Québec durant l'été, donc il faut en parler des festivals. Et depuis hier soir, eh bien, c'est le Festival d'été de Québec qui a pris son envol avec le spectacle de Skrillex et Diplo. Alors, c'était pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui aiment de la musique électronique, évidemment. C'est pas pour tous ceux qui aime plusieurs styles. Alors bref, ça s'adressait pas à tout le monde hier soir comme soirée d'ouverture, mais je pense qu'il y en a pour tous les goûts au cours des prochains jours. Alors, pour les 11 prochains jours, en fait, Québec est envahi par les stars du Festival d'été et c'est Cédric Bélanger dans le Journal de Montréal du 9 juillet dernier qui en parle, donc un petit peu de tous les styles. Ouvrez grand les yeux parce que peut-être croiserez-vous plutôt Mick Jagger, Keith Richards ou bien Keith Urban quelque part en ville. On sait déjà que les réservations ont été effectuées dans un chic hôtel pour les Rolling Stones et leur équipe. Est-ce que les membres du groupe dormiront en ville comme en 1998 quand ils avaient posé leurs valises au Concorde? Eh bien, grâce à leurs 3 jours de congé avant de jouer sur les plaines d'Abraham, on peut espérer peut-être que les papis du rock fassent un petit peu tourisme chez nous. Il y a aussi Dave Grohl qui a fait tout pour reprendre la tournée des Foo Fighters malgré sa fracture à une jambe il y a quelques semaines. Et est-ce qu'on peut espérer qu'il va casser la croûte dans l'un des bons restaurants de Québec? Encore une fois, une question qui se pose. Et en tant que bon band de rock, les Foo Fighters arriveront chez nous en autobus de tournée et non en avion. Alors ça, c'est vraiment des vrais du rock, on va dire ça comme ça. Réputé pour sa gentillesse également, Keith Urban, qui sera sur la scène principale ce soir, eh bien, profitera de son séjour pour rencontrer les médias de Québec. Et à moins d'une surprise, par contre, il ne sera pas accompagné de sa femme, la célèbre actrice Nicole Kidman. Patrick Bruel également qui pourrait arriver à la dernière minute dans la capitale parce qu'il participe à un tournoi de poker, semble-t-il. Il va étirer cependant son séjour pour pouvoir voir les Rolling Stones et ne vous surprenez pas de tomber sur lui peut-être dans la tente VIP le soir du spectacle. Comme à son habitude, eh bien, l'organisation du festival d'été joue la carte de la discrétion en ce qui concerne les allées et venues des stars à Québec, donc c'est impossible de savoir exactement combien de temps les Rolling Stones, les Foo Fighters vont passer en ville. C'est pas des informations que malheureusement on dévoile et ça c'est Lucie Tremblay, la directrice des communications du Festival d'été de Québec qui le mentionne. Par contre, on peut cependant dire que certains vont rester 2 ou 3 nuits en ville. Alors, on sait jamais. Peut-être qu'on pourra voir les Stones dans les rues de Québec. On sait jamais. Il y a d'autres têtes d'affiche également du Festival d'été de Québec qui ont déjà mis les pieds à Québec. Bon, après avoir assuré la première partie du concert de Taylor Swift à Montréal mardi dernier, l'Australien Vance Joy a mis le cap sur Québec. Donc, mercredi, l'interprète de la pièce Riptide a profité de sa journée de congé pour faire du tourisme avec sa famille. Et le coup d'envoi, comme je vous l'ai déjà mentionné, c'était donné par Skrillex ses diplômes hier soir et donc tout est en place pour accueillir des dizaines de milliers de personnes qui se rendront chaque soir sur les différents sites de spectacle. Et pour ce qui est de la météo, eh bien pour l'instant on dit qu'il n'y a pas de soucis. Selon les prévisions actuelles, on aura du soleil pour toute la fin de semaine et une bonne partie de la semaine prochaine. Alors c'est quand même des bonnes nouvelles. Pour ce qui est des retardataires qui n'ont pas encore acheté leur laissez-passer, semble-t-il qu'il en reste encore. C'est ce qu'a certifié le directeur général Daniel Gélina. Alors il y a quelques jours, il y a encore des billets à vendre tout le long de l'événement, semble-t-il, ce qui signifie qu'aucun billet quotidien ne sera disponible puisqu'il reste encore des passes week-end et les passes pour toute la durée du festival. Alors, c'est quand même intéressant. Donc, je vous rappelle que c'est à Québec, évidemment, le Festival d'été de Québec, et ça se déroule sur 10 jours. Alors, c'est assez intéressant pour tous ceux qui sont dans la région. Pourquoi pas aller faire un tour?
Sophia. Angel, angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our courts, you can say we're satisfied. Angel, say we never tried. Angie, you're beautiful, yeah. But ain't it time we said goodbye? Angie, I still love you.
La belle voix de Mick Jagger qui nous a chanté Angie, c'était bien sûr, on ne les présente plus, les Rolling Stones. Charles, je crois que tu vas nous parler de la première de Dragao.
Exactement, c'est mardi que Amos d'Aragon affrontait le dragon pour la première fois dans un spectacle qui marquait le début des représentations de Dragao. À la Cité de l'énergie de Shawinigan, le plus récent projet de Brian Perrault présenté à la tombée de la nuit jusqu'au 22 août, a honoré sa promesse d'être gigantesque, raconte Myriam Lortie dans Le Nouvelliste. C'est un article publié le 8 juillet dernier qui, justement, parle de cette adaptation de ce livre-là. Dragao, c'est l'histoire d'Amos d'Aragon qui entreprend un voyage, un grand voyage, avec son acolyte Beorf pour arrêter la ponte des œufs d'un dragon né dans une montagne du Nord sur un trésor pillé par les méchants bonnets rouges. Amos d'Aragon, jeune magicien des éléments désigné par le grand livre des prophéties, est le seul qui peut rétablir la paix. Dans la continuité du premier spectacle et fidèle à l'esprit des romans d'Amos d'Aragon, Brian Perrault campe son univers dans des décors médiévaux qui servent bien le fantastique du récit. Le metteur en scène a su utiliser, dit-on, le potentiel qu'offrent les lieux pour la pièce inspirée des tomes 2 et 3 de la série. S'il est facile de se laisser déconcentrer en début de pièce par les différents éléments de décor, le spectateur n'a d'autre choix que de se laisser rapidement prendre au jeu pendant les 90 minutes de la pièce. Il faut dire que la salle tournante de 900 sièges longés au pied de la tour de la Cité de l'énergie permet à l'espace scénique de se déployer au-delà des conventions habituelles. Théâtre, acrobatie, chorégraphie se relaient dans une valse de tableaux qui apparaissent devant le spectateur au gré de la rotation de l'amphithéâtre en bordure de l'eau. Imaginez quel beau spectacle. En couverture de l'article, je vous décris un peu l'image. Là, il y a un immense dragon tout en couleur, puis il y a la fumée qui sort de sa bouche avec Amos d'Aragon en avant. Il a vraiment l'air de passer un sale quart d'heure. Enfin, c'est Marcel Sabouret qui prête sa voix de narrateur, tandis que Raphaël Grenier-Benoît, qu'on a vu jouer dans Les Parents, incarne Amos d'Aragon. Les textes préenregistrés permettent aux spectateurs de ne manquer aucun mot de ce spectacle de grande envergure extérieure. Ceux-ci sont appuyés par des comédiens qui doivent déployer, bien sûr, leur jeu physique dans de grands mouvements sous d'imposants costumes, masques et maquillages. En tout, c'est 28 artistes qui montent sur scène, dont 13 de cirque. Outre la bataille navale où la pyrotechnie est ingénieusement utilisée pour illustrer les coups de canon ou encore l'envol d'un engin doté de 5 immenses ballons, plusieurs moments risquent de marquer l'imaginaire. Supporté par une équipe solide, Brian Perrault a fait un travail colossal, dit-on, avec Dragao, qui présente et offre un spectacle nocturne haut de gamme aux visiteurs de la région, mais aussi de l'extérieur. C'est à Shawinigan, je le répète, jusqu'au 22 août.
Après avoir amusé des milliers de personnes l'été dernier en racontant au public des histoires vécues de premières relations sexuelles, la comédie qui s'adresse aux 16 ans et plus, Ma première fois, adaptée et mise en scène par Jasmine Ron, reprend l'affiche à la Maison des Arts de Laval tout au long du mois de juillet, avant de partir pour une tournée dans toute la province. Louise Bourbonnais nous en parle dans le Journal de Montréal. Visiblement heureux de remonter sur les planches, Martin Vachon, qui est au nombre des quatre comédiens de la distribution, est toujours aussi enthousiaste quand il part de la comédie Ma première fois. Les spectateurs sont agréablement surpris, lance-t-il, en faisant référence aux commentaires du public qui reviennent le plus souvent après le spectacle. Tantôt en solo, tantôt en duo, les quatre comédiens qui se retrouvent tous ensemble selon les sketchs, racontent la première relation sexuelle sur la base de pas moins de 40 000 témoignages recueillis sur le blog mafirsttime.com. C'est le producteur de théâtre américain Ken Davenport qui a eu l'idée du concept qui a vu le jour en 2007. Il a depuis voyagé dans 8 pays, notamment au Mexique, en Corée et en Espagne. En somme, plus de 3 millions de personnes ont déjà assisté au spectacle dans le monde et c'est Jasmine Ron qui a eu l'idée de reprendre le concept pour le Québec l'année dernière. On s'en doute, ce sont bien sûr les témoignages les plus surprenants et originaux qui ont été privilégiés pour être présentés aux spectateurs et c'est en demandant à Martin Vachon quel est le sketch qu'il préfère parmi la cinquantaine présentée que le ton est donné. C'est celui où un couple a fait l'amour pour la première fois dans les toilettes d'un avion de ligne, répond le comédien, ajoutant qu'il faut savoir faire preuve de flexibilité étant donné l'étroitesse de lieu. Je sais que c'est surprenant pour une première fois, mais c'est plausible. Plusieurs souhaitent perdre leur virginité à tout prix et le lieu importe. Donc voilà un petit peu le ton du spectacle qui est donné. Je rappelle juste que c'est jusqu'au 25 juillet à la Maison des Arts de Laval et il y aura une tournée dans tout le Québec. Voilà.
Bien, merci Jennifer. On se laisse le temps d'une courte pause, mais avant, j'ai le temps de vous dire qu'il y a le Festival international de percussion jusqu'à dimanche au Marché Bon Secours et au Quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Port de Montréal. Pour plus d'informations, c'est percussion@.ca. On se retrouve dans deux petites minutes pour le reste de l'émission. À tout de suite.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors, on reparle de festival encore une fois ce matin.
Marche pas le morceau.
Non, exactement. C'est important d'en parler.
Mais là, de cinéma, c'est ça, c'est différent.
Non. On parle toujours de festival. C'est, en fait, c'est de burlesque. Et, c'est, on appelle ça, en fait, magique et éclectique. C'est le festival, le Shazam Fest, en fait, qui s'est ouvert hier. On en reparle donc dans le journal La Tribune. C'est dans le coin de Sherbrooke. Alors, pour ceux qui... soyez pas trop loin, qui êtes pas trop loin, en fait, plutôt, vous pouvez aller faire un tour, c'est jusqu'à dimanche. Afin de souligner son 10e anniversaire, Marie Scarbonneau nous en parle dans le journal La Tribune. Eh bien, le Shazam Fest ouvrait donc son amphithéâtre à ciel ouvert depuis hier soir. Et en musique, on pouvait entendre les deux Lux, un gros coup de cœur, semble-t-il, de Ziv Pritstick, le grand organisateur de ce festival éclectique, comme son nom, en fait, j'aimerais bien dire. Le spectacle sera suivi d'une nouveauté cette année, la projection de courts-métrages issus des quatre coins de la planète, dans le pur style Shazam, c'est-à-dire magique et éclectique. Pour cette 10e édition, à s'ébranler dans les terres de Barnston West, les artistes de l'insolite Blue Mushroom Circus Psy Show seront les maîtres de cérémonie. Leur délicieuse Miss Bonbon Bombay agira à titre de porte-parole officielle. Au rendez-vous, autrement dit, c'est Vaudeville et du burlesque qui seront omniprésents tout le week-end avec des troupes comme Capital Tease Burlesque et Mansfield Brothers Vaudeville. Pour ne pas être en reste, les spectateurs sont également invités à se costumer dans le cadre d'une compétition amicale. C'est un carnaval, autrement dit. On a toujours plus de plaisir lorsqu'on sort de soi-même, qu'on se met en costume. C'est toujours plaisant dans ce temps-là. Et parmi les incontournables du Shazam Fest cette année seront de retour les groupes de Blacksmiths, de Damn Truth, Z Ratliff Fanfare ainsi que les Aphrodisiaques Tribal Rose. Comme à l'habitude, les festivaliers découvriront également de nouveaux artistes dont l'homme orchestre américain Bob Logal et sa slide guitare, le groupe montréalais Les Chiens de Ruelle, The Lemon Bucket Orchestra également avec ses 13 musiciens et chanteurs, Clay and Friends, de même que le groupe pop électronique saskatchewanais Robot Hive. Alors, c'est des noms un peu difficiles à prononcer parfois ce matin.
Bravo.
Quand même, merci. Il y a des artistes locaux également qui seront à l'honneur, dont Labo Kraboom, une compagnie de cirque toute cherbourquoise. Icône canadienne de la scène rap underground également, Rich Terfi alias Box 65 sera sur scène ce soir, donc vendredi soir. Et semble-t-il que c'est un coup de cœur de jeunesse pour Ziv, le principal organisateur de l'événement. Il est très connu dans le milieu anglophone, mais il a été surpris de découvrir que beaucoup de Québécois le connaissent et qu'ils ont hâte de le voir. Alors c'est assez intéressant également. La question c'est de savoir comment diable Ziv parvient-il à mettre la main sur ses pièces rares pour un festival dans un tout petit village des cantons de l'Est? Eh bien, le Shazam, qui est un endroit où l'on brise les barrières entre la foule et les artistes, et il l'apprécie. L'événement qui s'est aussi acquis une très bonne réputation au fil des années, mais j'avoue que la moitié des artistes que j'invite n'ont aucune idée où se trouve Barnston West, et même moi, j'ai dû faire une petite recherche pour situer la ville sur une map. Et afin de clôturer en beauté ce 10e anniversaire cette année, l'accès au site sera gratuit dimanche, alors que le bluesman estrien Mike Goudreau et le groupe mexico-montréalais Black Void se produiront. Alors, je vous rappelle, le Shazam Fest aura lieu du 9 au 12 juillet. Ça a commencé hier et ça se termine donc dimanche. Et c'est sur le chemin de Ways Mill à Barnston West, dans les cantons de l'Est. We'll be right back.
entendre un extrait de Blacksmith qui sera au festival dont tu parlais, Jean-Philippe.
Exactement.
Et maintenant, Jennifer, on va en cinéma, oui, pour un documentaire à propos de Amy Winehouse.
Et oui, la très controversée Amy Winehouse, en effet. Il y a eu un documentaire présenté, donc le documentaire Amy, présenté samedi soir dernier dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal. Et ce documentaire prend l'affiche, dès aujourd'hui. En entrevue, le cinéaste Asif Kapadia revient sur la vie d'Amy Winehouse et sur sa démarche. C'est Isabelle Hondeberry qui nous en parle dans le Journal de Montréal de ce vendredi 3 juillet. Le Britannique Asif Kapadia est connu pour son excellent documentaire Senna, sorti en 2010. C'est d'ailleurs grâce à ce long métrage qu'Universal, la maison de disques d'Amy Winehouse, l'a contacté pour qu'il soit à la barre d'Amy peu de temps après le décès tragique de la chanteuse en 2011. « Oui, bien sûr que j'ai eu des scrupules à accepter si peu de temps après sa mort », a-t-il indiqué. Ensuite, il s'est produit quelque chose. Quand j'ai commencé à effectuer mes recherches, le documentaire est devenu une œuvre plus vaste. Oui, évidemment qu'Amy porte sur Amy Winehouse, sa carrière, sa musique, mais c'est aussi sur Londres et sur nous tous. Si cela avait été une fiction, le film aurait pris des années à être présenté en salle. Là, c'était de la nouvelle et c'était important de sortir le documentaire assez vite. Nous avons tous fait partie de cette histoire et personne n'a levé le petit doigt pour l'aider. J'ai interviewé des gens qui étaient partie prenante de cette machine et qui aujourd'hui s'interrogent sur le rôle qu'ils ont joué dans sa mort. Pour moi, c'est l'aspect intéressant de la démarche. Autant Senna replonge le public dans les années de gloire d'Ayrton Senna, autant Amy donne une sensation d'instantanéité. Oui, j'avais envie de faire quelque chose d'entièrement différent. Amy, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Elle est morte hier et tout le monde s'en est moqué. Pourquoi personne n'a-t-il été tenu responsable de sa fin ? Pour Asif Kapadia, son histoire est proche de moi, je vivais au bout de sa rue quand c'est arrivé. Amy possédait le talent, écrivait ses chansons et est devenue célèbre parce qu'elle racontait dans sa musique ce qui lui arrivait dans la vie. Et quand elle a raconté qu'elle n'était pas allée chercher de l'aide en cure de désintoxication, c'est à ce moment-là qu'elle est devenue une vedette, notamment avec la pièce Rehab qui est sortie en 2006. La chanson qui parle de son besoin d'aide et de son refus d'en obtenir est sortie au début de l'ère numérique. C'est aussi l'époque de la guerre entre les magazines à potins britanniques et les écoutes téléphoniques. Dès que les médias mettaient une photo d'elle en couverture d'un magazine ou mettaient une nouvelle sur elle en ligne, tout le monde se ruait dessus. Les vidéos d'elle, l'air complètement défait, sortaient les unes après les autres. C'était comme un cyclone et c'est elle qui se trouvait en plein milieu. Asif Kapadia a interviewé des centaines de personnes, membres de sa famille, amis, relations professionnelles, pour réaliser ce documentaire. Pendant ses recherches menées au cours des 4 dernières années, il a été submergé par l'émotion à plusieurs reprises. Tous les gens que j'ai interrogés se sont mis à pleurer. Il y avait des fois où c'était très pesant. On réalise alors à quel point l'histoire d'Amy Winehouse touche encore tout le monde et de très près. Donc je pense que c'est un documentaire qui va faire beaucoup parler et on va donc écouter tout de suite Rehab d'Amy Winehouse.
Merci.
Charles qui ne connaissait pas Amy Winehouse.
Oui, non, je ne connaissais pas, je suis désolé. Merci de m'avoir fait découvrir ça, Jennifer.
Je t'en prie.
On reste en cinéma cette fois-ci avec le gay Hollywood.
Oui, exactement. Enfin, on en a parlé beaucoup du mariage homosexuel dernièrement avec la légalisation partout aux États-Unis. Et faut dire qu'Hollywood doit s'ajuster également. Et on en parle dans le journal de Devoir du 9 juillet dernier, donc d'hier matin en fait, un article de François Lévesque qui retrace un peu le portrait d'Hollywood et du cinéma avec l'homosexualité. Donc c'est assez intéressant. C'est un long article dont je ne vais pas vous faire la nomenclature au complet. Donc j'ai été chercher quelques petits passages. Autrement dit, la 20th Century Fox prépare un film inspiré par la décision de la Cour suprême en faveur du mariage entre conjoints de même sexe. Est-ce qu'il s'agira d'un jalon important dans la représentation de l'homosexualité dans le cinéma populaire comme le fut Souvenir de Brokeback Mountain ou d'un rendez-vous manqué? Alors c'est à voir évidemment. Jadis tabou, le thème de l'homosexualité qui est désormais abordé avec un peu plus d'aisance dans les productions hollywoodiennes, mais malgré des avancées notables, les grands studios continuent d'accuser une certaine frilosité vis-à-vis du sujet. En portant au grand écran la cause du mariage gay récemment légalisée par la Cour suprême américaine, la Major 20th Century Fox laissera-t-elle des coups des franches à ses artisans ou se préoccupera-t-elle davantage de n'offenser personne avant d'être une usine à rêves? Eh bien, Hollywood est d'abord une industrie et en attendant de savoir ce qu'il en retournera, l'occasion est idéale pour un retour sur l'évolution de la figure homosexuelle dans ce cinéma grand public américain. Alors, on en relate un peu les grandes périodes du cinéma américain dans cet article-là, je vous rappelle, qui est écrit par François Lévesque, si je me trompe pas, je dis ça exactement. Alors, c'était longtemps illégal en Occident autant qu'en Orient, l'homosexualité qui fut proscrite à Hollywood en vertu du code Hays qui, entre 1930 et 1968, édicta ce qui pouvait et surtout ce qui ne pouvait pas être montré au cinéma. Et donc, ainsi, on y réglait la question de l'homosexualité en disant que la perversion sexuelle ou toute interférence à celle-ci, ou toute inférence plutôt à celle-ci est interdite. Alors, c'était réglé, malheureusement, dans ce cas-là. Et durant la Grande Dépression, l'inclusion des gays et des lesbiennes au cinéma, je voulais surtout un moyen de choquer et aussi de publicité, de vendre des billets. Et rapidement, les différents États y allèrent de leur propre législation plutôt restrictive avant que le code vienne réguler les mœurs cinématographiques pour l'ensemble du pays, et ce pendant quand même 20 ans. Et pour autant, les années 50 ne se montrèrent guère plus aventureuses en la matière, et à la toute fin également de la décennie, Billy Wilder jeta subrepticement... Mot incompréhensible.
C'est pas évident.
Non, exactement. Donc, Billy Wilder, en fait, a jeté un pavé dans la mare avec Certains l'aiment chaud, qui est un film, un chef-d'œuvre comique, on l'appelle comme ça. Le personnage de Jack Lemmon, à la fin, qui s'est travesti pendant une bonne partie du film, explique à un autre homme qui s'était pris de lui en femme qu'il est en réalité un homme, et le personnage a simplement mentionné « Et alors, personne n'est parfait ». Alors, déjà là, on choquait là, la communauté américaine avec ce film-là. Bon, allusif, durant les années 60, la présence homosexuelle se précisa en 1970 quand William Friedkin adapta la pièce à succès Les garçons de la bande, dont tous les personnages sont gays, et 10 ans plus tard, le réalisateur de L'Exorciste fit scandale avec le film Cruising, dans lequel Al Pacino campait un flic qui tente de débusquer un tueur en série qui sévit dans le milieu gay sadomaso. Alors on se transporte maintenant en 2005 avec le film Souvenir de Brokeback Mountain. Le public était prêt, semble-t-il. Ou alors, c'est ce que le cinéaste Ang Lee ne se posa pas la question. L'un des chouchous de la critique cette année-là, ce récit d'amour impossible entre deux cow-boys cumula des recettes importantes quand même. Pour un petit budget de 14 millions, des recettes de 180 millions de dollars. Et ironiquement, les vedettes du film, Jake Gyllenhaal et Heath Ledger, semble-t-il, avaient été tentés d'être dissuadés de participer au film Question d'image, mais finalement ils ont accepté et c'était une bonne idée pour eux. Alors, inspiré par le combat de Jim Obergefell, dont l'action en justice a débouché sur le jugement historique du 26 juin dernier, le long métrage que prépare la Century Fox est d'ores et déjà en pré-production, semble-t-il. Fait intéressant, c'est sa filiale Fox 2000 Pictures que le studio a confié le projet. On n'a pas vraiment plus de détails à ce sujet-là. Par cette simple décision, par contre, la 20th Century Fox indique son intention de rejoindre un public très large avec l'histoire de Jim Obergefell. Reste à savoir s'il s'agira d'un timide film ou d'un assumé souvenir de Brokeback Mountain. Réponse bientôt à l'affiche dans un cinéma près de chez vous.
Dès aujourd'hui, vous pourrez peut-être voir au Palais des Congrès la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Dans Le Devoir, c'est Jérôme de Delgado qui nous en parle le 9 juillet, la Chapelle Sixtine version Hollywood. Si Las Vegas possède sa tour Eiffel et ses canaux vénitiens, pourquoi Montréal n'aurait pas sa Chapelle Sixtine? C'est la question que se sont posées les promoteurs de rêves de toutes sortes. Voilà pourquoi, à compter d'aujourd'hui, le Palais des Congrès peut se vanter d'accueillir, sauf erreur, la première Chapelle Sixtine en dehors du Vatican. Événement tape à l'œil qu'est la Chapelle Sixtine de Michel-Ange. L'exposition est une idée de Martin Bias, dont l'entreprise Special Entertainment Events Inc., basée à Hollywood, travaille avec des sujets comme Star Trek. Après Montréal, il attirera Toronto à Vancouver, puis éventuellement en Amérique latine. Deux facsimilés de l'exposition circuleront aussi en Europe et en Asie. Le projet en soi est noble, rendre accessible un décor de fresques habituellement au perché et sans passer par l'interminable file d'attente au Vatican. L'exposition repose au mieux sur un malentendu, au pire sur une formidable fourberie. Primo, il ne s'agit pas de la chapelle de Michel-Ange, mais bien de son plafond. Le jugement dernier, immense fresque murale de l'artiste florentin, n'y est pas. Deuxio, le décor de la chapelle comprend des fresques réalisées par un vaste groupe d'artistes, dont le plus connu est Botticelli. L'expo ne fait pas que rendre uniquement les Michel-Ange. Elle les montre de manière isolée, escamotant les ornements architecturaux et des peintures secondaires connexes. Or, la création d'Adam, la célèbre représentation du doigt de Dieu, n'est pas une Joconde autonome, sauf sur une carte postale. Supprimer le contexte, c'est dénaturer un projet artistique. Il est donc dangereux de prétendre qu'une exposition de photos est aussi précise soit-elle, donne accès au vrai ensemble pictural. Certes, la mise en espace, l'éclairage et la disposition des images font de la visite une expérience immersive qui a de la gueule. Or, ce n'est pas parce qu'on monte en haut de la Tour Eiffel à Las Vegas, qu'on voit Paris.
And frankly, there's nothing so unusual about being a Jewish cowboy.
On the trail to nowhere, all I have is a horse. Even he would leave if he broke free of this curse. All I got's memories, they aren't even mine. On the drive, wind wails till my song is blown away.
On vient d'entendre un extrait de « You are never alone » de l'artiste So Carl. C'est très bon, c'est très rythmé. Maintenant, on va au Zoo Fest avec Jennifer.
Et oui, on continue avec le festival Zoo Fest. On reste dans la lignée. Où effectivement, donc, le Journal de Montréal propose, parce qu'il va y avoir 180 spectacles pendant ce festival, donc lui, il a fait une petite sélection. Je vais vous en parler de quelques-uns. Notamment le Gala des Refusés, où 8 humoristes ont tenté leur chance lors des auditions pour les galas Juste pour rire cette année, sans succès. Donc ces 8 humoristes se sont retrouvés avec des numéros thématiques qu'ils avaient écrits spécifiquement pour le gala, et ils se sont dit, plutôt que de les perdre, on va avoir une idée un petit peu originale d'organiser notre propre gala avec la musique de Juste pour rire et des habits propres. Donc voilà, ils vont vous présenter ça. Ça s'appelle le gala des refusés. Également le show 2000. L'an dernier, cette jeune troupe d'humoristes avait connu un énorme succès avec le Harry Potter Show. Voici qu'ils sont de retour avec un spectacle nostalgique sur les années 90 et 2000. Au moment d'écrire ces lignes, il s'agissait du plus gros vendeur de ZooFest cette année. L'ascension de Dave Morgan. Morgan ou Morgan, je sais pas. On va dire Morgan. Allez, c'est parti. Voilà l'idée la plus originale de ZooFest 2015. Dès demain et pour 10 représentations non consécutives, Dave Morgan présentera le même spectacle de 60 minutes devant un public sans cesse grandissant. Le premier soir, il jouera devant 5 personnes dans une voiture. Le lendemain, il se déplacera dans un ascenseur. Le tout culminera avec un spectacle extérieur à la place des festivals.
Wow.
Enfin drôle, un des classiques de ZooFest, le duo Les Picbois, est encore de retour au festival avec un nouveau spectacle. Les deux Uberlus seront en représentation pas moins de 15 soirs durant le ZooFest. Enfin drôle, c'est une expérience punk rock dans la sagesse de la niaiserie, écrivent-ils. 60 humoristes en 60 minutes. Son titre le dit, chaque humoriste a une minute seule sur scène pour faire rire le public avec ce qu'il veut. 60 secondes, top chrono. Le show de la dernière chance, on raconte que ce spectacle a failli s'appeler « Lâche pas ta job de jour ». Animé par Julien Bernatchez, il met en vedette des humoristes qui sont depuis trop longtemps dans la catégorie de la relève. Et puis je vais terminer avec les 10 minutes de marde. C'est un concept né de l'imagination de Jo Guérin, un nouvel humoriste de la relève. Ce spectacle mettra en scène 5 humoristes qui ont chacun écrit un numéro pour un autre qui participera au spectacle. Le but, que ce numéro soit vraiment mauvais. Et l'humoriste n'a pas le choix de livrer le texte qu'on lui a écrit. Et puis pour ajouter du piquant à tout ça, bien sûr, les 5 participants vont se mettre une contrainte scénique au dernier moment. Voilà, bon. Donc, il va y avoir quand même de choses très très drôles à voir. Donc allez-y.
Une nouveauté cette semaine, en fait, qui commence aujourd'hui. Alors, pour ceux qui sont habitués d'aller chercher leurs nouveaux albums les mardis, à compter d'aujourd'hui, c'est à noter que les albums de musique, autant physiques que numériques, sortent désormais le vendredi. Alors, les albums qui sortiront à partir d'aujourd'hui, le vendredi, dans le but d'harmoniser les dates des publications à travers le monde, c'est ce qui a été annoncé. La Fédération internationale de l'industrie phonographique a indiqué avoir conclu un accord en février avec les maisons de disques partout dans le monde. Alors, 45 pays s'entendent pour dire que le vendredi, c'est le meilleur moment pour sortir les albums. Alors, surprenez-vous pas si vous allez au HMV ou Archambault le mardi et qu'il n'y a pas de nouveauté par rapport à la journée de lundi.
Une nouvelle fort chouette, la Fabrique culturelle, vous savez, cette plateforme web et vidéo de Télé-Québec, eh bien, elle est nommée comme un bon exemple de nouvelles pratiques culturelles dans une étude du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation de l'Université du Québec. Cette étude était commanditée par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international et le ministère de la Culture et de la Communication de la France, et elle était part de la documentation fournie aux participants de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles tenue au siège de l'UNESCO en juin dernier.
Le festival Nuit d'Afrique met à l'honneur un des instruments les plus emblématiques d'Afrique de l'Ouest ce soir au Jésus, la kora. Pour faire chanter cette sorte de grande harpe africaine à 21 cordes montées sur une calebasse, deux virtuoses, Dieli Mori Tungara, dont le chœur et la kora balancent entre le Mali et le Québec, et Djeli Moussa Diawara, fondateur du célèbre Kora Jazz Trio, qui a officié partout sur le globe les noces heureuses du jazz et de la kora, une nuit qui promet.
La La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la SOCAN, a annoncé ce matin, en fait, ça c'est un article du 9 juillet, donc hier matin, que le vainqueur du prix de la chanson SOCAN 2015 est Antoine Corriveau pour sa pièce Le Nouveau Vocabulaire. Je vous rappelle qu'entre le 14 juin et le 1er juillet, le public était invité à voter parmi une dizaine de chansons pour sa chanson favorite et donc qui détermine le gagnant. C'est un prix de 10 000 $ en plus d'autres prix cette année pour la 10e édition, alors c'est très intéressant. Et la pièce se retrouve sur le deuxième album d'Antoine Corriveau, c'est Les Ombres Longues, qui est sorti en mars 2014.
Parler maintenant du cinéma sous les étoiles. Vous savez, c'est les dimanches des soirs d'été qui, des fois, sont un peu moroses. Ben, au parc René Goupil, apportez votre chaise longue et à la tombée du jour, vous pouvez profiter d'une projection sur grand écran. Le 19 juillet prochain à 20h45, ce sera le film de Philippe Muil, Le promeneur d'oiseaux. Et en terminant, une animation autour des pianos publics. Le pianiste Guillaume Martineau vous donne rendez-vous dans les rues de Verdun. Inspiré des thèmes ou des compositeurs, les concerts se dérouleront autour des pianos publics installés à l'extérieur. Aujourd'hui, à 19h30, ce sera le piano Wellington que Guillaume choisira. Et vous pourrez entendre du jazz, les classiques du jazz, entre les rues Galt et les rues de l'Église. Merci beaucoup, c'était Kiosque Magazine. Merci Jean-Philippe Vachon et Jennifer Vignery. Je vous remercie aussi Rémi Hermoso à la régie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et ne manquez pas les feux de l'Auto-Québec. C'est l'Italie ce samedi, demain soir.
Ouais, l'Italie.
Au revoir.
Bonne semaine.